Et le grand entretien du 7-9 aujourd'hui est consacré à cette initiative inédite en France, connue sous le nom de l'affaire du siècle, soit la mise en accusation de l'État devant les tribunaux pour inaction climatique. Peut-être avez-vous entendu parler ou même signé la pétition qui accompagne cette action en justice, car elle a récolté plus de 2 millions de signatures, ce qui est un record et peut-être un signe. On verra de quoi dans quelques instants. Les quatre organisations à l'origine de cette démarche sont au micro de France Inter. Cécile Duflo pour Oxfam, Fanny Gianceto pour Notre Affaire à Tous, Alain Grandjean pour la Fondation pour la Nature et l'Homme, l'ex-fondation Nicolas Hulot, et Jean-François Julliard pour Greenpeace France. Bonjour à vous quatre.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter. Pour commencer, faisons un bilan d'étape du mouvement lancé en décembre dernier, qu'on ait la frise chronologique en tête, comme on disait à l'école. Donc, il y a 2 mois, quand vous faisiez savoir votre intention d'attaquer l'État. Vous aviez alors formulé une demande de réparation des préjudices causés par ce que vous considériez être l'inaction de l'État en matière climatique. 2 mois de délai entre la question posée à l'État et sa réponse. La réponse, l'avez-vous eue et de quelle nature était-elle? On commence avec vous, Cécile Duflo. Pour Oxfam.
Oui, on a eu une réponse négative du ministre de l'écologie qui considérait que l'État n'avait pas à donner droit à nos demandes. Donc, sur la base de cette réponse, nous avons donc attaqué cette réponse et c'est pour ça que le recours a été déposé au moment où je vous parle, au nom de nos 4 organisations pour inaction climatique face à l'État français.
Mais Jean-François Julliard, le ministre de l'écologie, François de Rugy, a publié un mémo de 10 pages suite à la première demande. Mémo où il a détaillé toutes les actions de la France en matière climatique. Avez-vous été, convaincu, déçu? Est-ce que l'État peut faire plus que ce qu'il a déjà fait? Qui veut répondre? Jean-François Julliard pour Greenpeace, Alain Grandjean pour Alain Grandjean.
Je vais répondre sur un premier point, puis Jean-François a complété. Dans les faits, l'État s'est engagé sur la période 2015-2018 à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. En fait, il y a un écart de 4% en plus. Et donc, on constate l'inaction par ces résultats qui sont très insuffisants. Et le pire, c'est que si on se projette dans le temps, 2019-2023, ça va être encore plus mauvais. Et donc, il y a peut-être des actions, on ne va pas en discuter, le problème c'est l'efficacité de leur action.
Jean-François Julliard.
Oui, il y a dans notre recours en fait trois manquements qu'on reproche à l'État. Le premier concerne effectivement cette réduction des émissions de gaz à effet de serre qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu climatique. Et en France, les émissions de gaz à effet de serre ont plutôt eu tendance à augmenter ces dernières années qu'à diminuer. Il y a aussi la question du développement des énergies renouvelables où la France est très en retard dans ce domaine-là. Et de la même manière, la réduction de la consommation d'énergie où la France est en retard également. Et donc à partir de là, effectivement, les réponses du gouvernement ne pouvaient pas nous satisfaire parce que ces retards sont tels que la France n'atteindra pas les objectifs que le gouvernement s'est lui-même fixé. Donc c'est vrai, quand on a rencontré le Premier ministre et le ministre de la Transition écologique qui nous ont reçus, ils nous ont dit, ils ont essayé de nous convaincre que la France était sur la bonne trajectoire, mais les indicateurs nous prouvent le contraire. Donc de toute façon, l'action gouvernementale en matière de lutte contre le dérèglement climatique n'est pas suffisante. Elle est loin d'être à la hauteur de l'enjeu, d'où ce dépôt du recours aujourd'hui.
Voilà, c'est ça, on y est là, Fanny Gianceto, c'est parti, la dépêche AFP est tombée il y a quelques instants, le recours est maintenant réel, tangible.
Tout à fait, on a déposé donc ce matin une requête sommaire qui va être complétée d'ici un mois par un mémoire complémentaire. Et je voudrais juste ajouter par rapport à ce qu'a dit Jean-François Julliard, nous, on agit par rapport à des obligations juridiques de l'État. L'État, il s'est engagé constitutionnellement avec la Charte de l'environnement, il s'est engagé conventionnellement avec la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à la vie, parce qu'on parle de ça, on parle du droit à la vie, et il s'est engagé dans sa loi et au niveau de l'Europe à réduire des émissions de gaz à effet de serre. Il s'est engagé avec des objectifs chiffrés. Et aujourd'hui, on constate que ces objectifs ne sont pas remplis.
Et alors, vous attendez quoi de cette action en justice, Cécile Duflo? Un jugement contraignant, une amende colossale? Vous attendez quoi exactement?
Ben, on attend l'action. C'est exactement ce que vient de dire Fanny. C'est-à-dire que la réalité, c'est que l'État n'est pas à la hauteur des engagements qu'il a pris lui-même. Il n'est pas à la hauteur des engagements pour lutter efficacement contre le dérèglement climatique, mais même pas des engagements auxquels il s'est engagé, et notamment ceux de l'accord de Paris. Enfin, il y a eu un grand moment, chacun s'en souvient, et c'est ce qui est pour nous le plus important, c'est qu'au-delà des mots, au-delà des grands messes, au-delà des grandes concertations, il faut des actes pour lutter contre le dérèglement climatique. Et donc, ces actes n'ayant pas été réalisés, nous souhaitons que la justice, on est dans un état
de droit.
Mais
vous croyez que la justice va tordre le bras de l'exécutif ?
Elle peut, elle l'a déjà fait, et puis l'État, c'est injusticiable comme un autre, on est dans un état de droit, hein. Donc on a le sentiment, parce que la France est particulière, on a une justice administrative qui gère les affaires de l'État et des collectivités locales, mais si vous ne respectez pas des règles ou des obligations ou la loi, vous pouvez être condamné. Donc il n'y a pas de raison que l'État ne le soit pas. Et notre objectif, c'est qu'il soit condamné à agir, sous peine de sanctions, mais qu'il soit condamné à agir et que les politiques publiques qui permettent de lutter contre le dérèglement climatique soient enfin mises en œuvre.
Mais donc, comme ONG, vous estimez les uns et les autres avoir atteint votre seuil d'incompétence, en quelque sorte. Vous ne pouvez plus rien faire d'autre que d'aller en justice.
Si, on peut faire beaucoup
de choses. La parole va circuler. Là, c'est Jean-François Julliard pour Greenpeace.
Si, on peut faire beaucoup d'autres choses et on continue de faire d'autres choses. On ne va pas se contenter de ce recours juridique. Donc, il va y avoir des mobilisations citoyennes. On va certainement parler. Ces grèves des lycéens, des étudiants, des marches pour le climat.
Demain, vendredi et samedi.
Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Mais à un moment donné, l'urgence climatique est telle qu'il faut, à notre avis, tout essayer. Et utiliser le levier juridique, l'action juridique est un moyen supplémentaire, un outil supplémentaire à notre disposition pour essayer finalement de contraindre le gouvernement à agir là où effectivement on n'est pas parvenu à le convaincre. Mmh. Et effectivement, ce qu'on attend aujourd'hui du tribunal administratif, c'est qu'il prononce une injonction à agir, c'est-à-dire quelque part qu'il contraigne le gouvernement, le Premier ministre et les ministres compétents à agir plus efficacement, avec plus d'ambition, pour lutter contre les dérèglements climatiques. Et je rappelle que c'est déjà arrivé dans d'autres affaires sans contaminer, l'affaire de l'amiante, les algues vertes, il y a eu des condamnations de l'État par des juridictions administratives. Donc si c'est arrivé dans ces affaires-là, on pense qu'il y a toutes les chances que ça puisse arriver aussi sur une affaire aussi importante, aussi ambitieuse que la lutte contre les dérèglements climatiques.
Alain Grandjean, Fondation pour la Nature et l'Homme.
Bien sûr que la bataille climatique est une bataille qui engage tout le monde. Et tous les leviers sont à mobiliser. C'est très difficile de gagner cette bataille. Et donc, c'est pas du tout du désespoir qu'on a ici, mais c'est de l'énergie en se disant un levier de plus, c'est indispensable dans cette bataille qui est essentielle pour la sauvegarde de l'humanité.
C'est de l'agit-prop juridique quand même, un petit peu, Fanny Gianceto.
Alors, oui, mais enfin non.
un peu et même beaucoup, hein.
Écoutez, nous, en tout cas, on y croit et pour nous, c'est simplement le respect de l'État de droit, c'est-à-dire que l'État s'est engagé et à partir du moment où il s'est engagé, il peut être contraint à suivre ses engagements. Et je tiens à préciser que, en effet, l'État a déjà été condamné en France, mais les États ont déjà été condamnés à l'étranger. Il y a plus de 1200 cas dans le monde qui relève de la justice climatique. Et surtout, on a évidemment le cas exemplaire des Pays-Bas qui ont été condamnés par leurs tribunaux à baisser de 25% leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020.
Cécile Duflo.
Oui, il y a une chose intéressante dans votre question, c'est de dire, mais vous avez plus que ça. Ah, mais en fait, ça fait 40 ans que des écologistes alertent. Ils ont d'abord prêché dans le désert en essayant d'expliquer la réalité. Ils ont fait face à des gens qui leur disaient que c'était pas vrai, des pseudo-scientifiques, des lobbies très organisés. Maintenant, plus on a tardé, plus le dérèglement climatique devient une question de vie ou de mort et vraiment une question d'humanité. Donc c'est vrai qu'il y a un mouvement global à l'échelle planétaire de plus grande détermination. Donc si des ONG comme les nôtres qui ont toutes participé aux débats, aux concertations, au Grenelle de l'environnement, eh ben on constate les limites de cet exercice. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait des propositions, qu'on a convaincu, qu'on a démontré la faisabilité, je parlais avec Alain Grandjean qui était membre de la commission il y a 10 ans sur la contribution climat-énergie, qui avait remis des propositions qui parlait de la nécessité d'ailleurs d'une justice à la fois climatique et sociale. Et ben on se dit maintenant ça suffit. Et d'ailleurs ce qui se passe au sein de nos ONG, ça se passe dans la rue et c'est pas un hasard si ça arrive aussi cette semaine avec les grèves, la grève européenne des jeunes pour le climat, avec la volonté d'une grande partie de la société civile de se mobiliser de manière beaucoup plus virulente parce que l'urgence est grande.
Et donc vous allez pouvoir faire la preuve, apporter la preuve d'une faute, d'une absence d'action, enfin en tout cas de quelque chose de répréhensible de la part de l'État, Jean-François Julliard, Greenpeace.
Oui, c'est ce qu'on souhaite. On souhaite, en fait, à travers ce recours, on a plusieurs objectifs. Le premier, c'est de faire reconnaître que l'État a une obligation d'agir pour lutter contre les dérèglements climatiques et une reconnaissance juridique donc de cette obligation à agir. Ensuite, on souhaite faire constater les manquements de l'État, c'est-à-dire l'inaction climatique, à travers le fait qu'il a fixé, on en a parlé, des objectifs, par exemple, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas atteints, des objectifs de développement des énergies renouvelables qui ne sont pas atteints. Et encore une fois, ce n'est pas nous qui avons fixé ces objectifs. objectifs à l'État. C'est lui-même qui se les est fixés dans un certain nombre de documents normatifs, des lois, conventions européennes, etc. Et ce qu'on demande à la fin, c'est qu'effectivement, le tribunal condamne l'État à agir. Mmh. Et si on se lance dans ce recours juridique, c'est qu'on y croit vraiment et qu'on croit vraiment en nos chances de l'emporter à la fin. Et si on a réussi à convaincre une bonne vingtaine de juristes, d'avocats, de professeurs de droit, spécialistes de droit administratif de travailler avec nous sur ce recours, parce que c'est pas nous quatre qui l'avons écrit, hein, cette requête qui a été déposée ce matin, c'est que ces juristes croient sérieusement en nos chances de l'emporter, en nos chances de convaincre un tribunal administratif de condamner l'État.
Et donc vous voulez ouvrir une brèche, au fond, hein, on peut le dire comme ça, à la fois dans le droit peut-être, et dans la contrainte que un mouvement de ce type peut exercer sur l'État. On peut résumer la démarche comme ça, Fanny Gianceto, puis Alain Grandjean, et on avance après.
Oui, en fait, on veut faire évoluer le droit. Le droit a besoin d'évoluer sur la question climatique, et évidemment, nous, on en appelle au juge ici pour condamner l'État et pour l'obliger à agir. Mais plus largement, ce mouvement de justice climatique partout dans le monde, c'est une volonté de faire évoluer notre droit, qui a besoin d'évoluer. C'est avec les droits de la nature qui ont été reconnus en Inde, qui ont été reconnus plus récemment avec le lac Carrier aux États-Unis, etc. C'est vraiment un mouvement dans ce sens.
Alain Grandjean.
Oui, je voulais juste prendre un exemple très concret pour que nos auditeurs comprennent bien. L'État déclare qu'il est nécessaire de rénover thermiquement 500 000 logements par an. C'est un sujet très important puisque c'est une très grosse source de consommation d'énergie.
Les passoires.
Les fameuses passoires. Bon, quand les faits montrent que c'est loin d'être réussi, cette affaire-là. On pourrait dire que c'est la faute aux ménages. Sauf que les ménages, ils ne peuvent pas tout seuls rénover leur logement. Ça leur coûte trop cher, ils sont en difficulté face à toute une profession qui a du mal à s'organiser. Donc c'est à l'État d'organiser tout ça et de faciliter le travail des ménages. L'État est garant de l'intérêt général. On est dans une économie marché. Les entreprises, les ménages suivent aussi leurs intérêts. Et donc, c'est à l'État d'introduire des normes, des règlements et des outils qui permettent à chacun d'entre nous de réduire ses émissions de gaz à effet de serre.
Donc le problème, Cécile Duflot, est aussi politique. Il ne se pose pas simplement dans l'éther, l'abstraction ou en justice. Si on prend ce que vous venez de dire sur les passoires énergétiques ou plus récemment sur la taxe carbone, vous voyez bien que le sujet est devenu explosif depuis quelques mois. N'est-ce pas aussi la dignité de la politique que de prendre en compte à un certain moment l'état de la population, le degré de crispation de l'espace public autour de telle ou telle chose, et d'en tenir compte? Une décision de justice ne va pas rayer d'un trait de plume ce qui est aussi la dignité de la politique.
Mais alors, vous avez complètement raison, mais je vais faire suite à ce que vient de dire Alain Grandjean. Les passoires thermiques, c'est un problème parce que ça produit énormément de gaz à effet de serre, mais c'est aussi un problème parce que les gens qui vivent dans ces passoires thermiques, pour une grande partie d'entre eux, n'ont pas les moyens de se chauffer. Et du coup, peuvent tomber malades, ont moins de vie sociale et souffrent de précarité énergétique. Donc là où c'est intéressant, à la fois passionnant et ça rend notre détermination plus grande, c'est que le chemin qui lutte contre le dérèglement climatique, c'est aussi un chemin qui lutte contre les inégalités, c'est un chemin contre la précarité sociale.
Mais voyez
sociale.
Sur la taxe carbone, c'est un cas très précis et très aigu où on a un gouvernement, un exécutif élu qui décide de faire marche arrière dans un contexte donné. Cette décision-là, elle est digne et elle est au moins aussi forte, si on croit à la démocratie et aux institutions, qu'une décision de justice.
Ah, mais ce qui est intéressant avec la taxe carbone...
Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Ce qui est intéressant avec la taxe carbone, je parlais du travail qui a été fait, c'est que de tout temps, les écologistes, les ONG, les économistes qui travaillent sur ce sujet disent cette fiscalité écologique, elle fonctionne si elle est juste et redistributive. Et si elle inclut la transition et qu'elle permet aux ménages les plus modestes de pouvoir engager cette transition. Et c'est toute l'erreur de la manière dont la taxe carbone a été proposée. Ça va de père, et c'est le travail qu'avait fait Oxfam il y a un an et demi, donc je le dis avec beaucoup d'aisance, sur une réforme fiscale qui était injuste et qui bénéficiait aux 0,1% les ménages les plus aisés. Donc là où vous avez raison, c'est que ces questions-là sont éminemment politiques. C'est-à-dire que ce n'est pas une fatalité. Le dérèglement climatique ou l'inaction climatique, c'est un choix. C'est le choix de ne pas agir ou de ne pas prendre les bonnes décisions.
Oui, mais on voit avec la démission de Nicolas Hulot qu'on peut vouloir agir, partager, j'imagine, le constat que vous faites. et ne pas pouvoir le faire parce que c'est dur la politique tout simplement.
Parce qu'il faut que ce
soit
sur la table.
Il y a des injonctions contradictoires à chaque moment.
Il a dit ici, Nicolas Hulot, parce qu'il faut que ce soit sur la table du Premier ministre ou du Président de la République. C'est pas le ministre de l'écologie tout seul, quelles que soient ses convictions, qui peut agir.
Jean-François Julliard pour Greenpeace.
Oui, on est d'accord avec ça. On a dit que quel que soit le ministre de la transition écologique, il ne peut pas agir s'il n'y a pas un cap fixé par le gouvernement. Et c'est bien le sens de notre démarche juridique aussi. On s'est adressé dès le mois de décembre, quand on a envoyé cette demande préalable, on l'a envoyé au Premier ministre et à 10 ministres concernés par ce dérèglement climatique. Parce que la question du dérèglement climatique a l'impact des pans entiers de notre société et ça va bien plus loin que le périmètre du seul ministre de la transition écologique. Donc tant qu'on n'aura pas un cap réellement efficace, ambitieux pour lutter contre le dérèglement climatique fixé par le Premier ministre et le Président de la République, on n'avancera pas.
Alain Grandjean pour...
La dignité d'un gouvernement et d'un chef d'État, c'est précisément d'anticiper ce qui peut arriver à moyen et long terme. Or, on sait que sur le plan social, ça va être de plus en plus pénible pour l'ensemble de tous les acteurs. Donc les petites difficultés qu'on a aujourd'hui sont marginales par rapport à celles devant lesquelles on va se retrouver dans quelques années. Donc on est bien devant des politiques globales, et c'est pas un ministre de l'écologie qui résout le problème.
Non mais ce que je veux dire, je veux pas dire qu'il y a une dignité à ne rien faire et à théoriser l'inaction en disant c'est magnifique de ne pas avancer. Je dis pas ça, je dis que la décision politique, dans un sens ou dans un autre, peut avoir une dignité. Les hommes et les femmes politiques sont élus dans une démocratie pour prendre des décisions. Parfois elles sont douloureuses, parfois elles sont difficiles, parfois elles vont dans tel sens, parfois dans tel autre. Voilà, ça fait partie du job. Comme vous êtes ONG, comme la justice fait de la justice. Enfin, voilà, il y a des instances dans une démocratie.
La dignité d'un responsable politique, c'est de préserver la capacité de vivre de ces populations. Et en fait, là, le débat, il se place à ce niveau. C'est pas un débat tactique, c'est pas un débat d'opportunité. C'est qu'aujourd'hui, même si un responsable politique décidait qu'il ne veut pas du tout agir contre le dérèglement climatique, ça continuerait de s'aggraver. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire face à la réalité. Et la dignité en 2019 d'un président de la République, la dignité d'un chef de gouvernement, c'est de prendre les mesures qui permettront aux générations qui sont déjà là, à celles qui sont au collège et au lycée, de ne pas vivre dans 20 ou 30 ans des difficultés considérables. La dignité politique, elle est là aujourd'hui.
Je voudrais donner la parole aux auditeurs de France Inter, extrêmement nombreux ce matin. Commençons avec Martial. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Devant.
Bonjour.
Je vous pose la question rapidement. Voilà, qu'en est-il exactement de l'écologie? Et vos actions sont extrêmement importantes et je les partage tout à fait. Mais devant l'urgence du dérèglement climatique et de la planète en péril, quand on voit que monsieur Macron donne un contrat sur un plateau au Kenya avec le groupe Vinci, je pense que ça, c'est industriel, nous sommes vraiment...
Oui. Alors Martial, on entend plus vos enfants que vous au micro de France Inter, mais on a saisi le sens de la question. Saluer les petits et les petites. Quand Monsieur Macron dit Martial offre sur un plateau à Vinci une autoroute au Kenya, l'État préfère les industriels. Qui veut répondre sur ce point-là? Greenpeace.
Oui, moi je peux répondre.
Jean-François Julliard.
Je pense que ce dont on souffre aussi aujourd'hui dans ce pays, c'est d'un manque de cohésion. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, effectivement, aujourd'hui, au sein du gouvernement français, et notamment la personne du président de la République, Emmanuel Macron, un positionnement très politique, très volontaire sur la scène internationale concernant la lutte contre le dérèglement climatique.
On l'a vu au Kenya hier.
On l'a vu au Kenya. On se souvient tous des sorties d'Emmanuel Macron au moment de l'annonce, justement, du retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Et en même temps, on voit bien que les actes ne sont pas cohérents par rapport à ces discours-là. C'est vrai qu'on a d'un côté, on a entendu le gouvernement dire qu'il fallait par exemple réduire la place de la voiture ou interdire la vente de véhicules diesel et thermiques à l'horizon 2040, et on continue parallèlement, ce qui est une bonne chose, et on continue parallèlement à construire toujours plus d'infrastructures routières et autoroutières en France et ailleurs, on le voit. Donc il y a comme ça un manque de cohésion et quelque part on en souffre parce qu'il n'y a pas de cap clair, il n'y a pas de trajectoire fixée, et c'est aussi ce qu'on dénonce encore une fois à travers ce recours-là. Essayer de faire en sorte que ce gouvernement ait une ligne plus forte.
Retour au standard et la parole circulera après en studio. Bernard, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Merci de prendre ma question.
Je vous en prie.
Je Je l'ai changé d'ailleurs parce que c'est sur le même sujet. J'ai entendu ce matin qu'une association au joli nom de Robin des Bois portait plainte suite à l'échouage d'un bateau. Et ça me fait peur, cette société que vous nous construisez, amis ONG, d'amener sur le terrain juridique ce qui devrait rester dans le combat politique, dans le combat du débat. Et donc, on va porter plainte chaque matin.
La judiciarisation de tout.
Parce que c'est difficile à dire, vous êtes un professionnel, bien sûr.
Et parfois, je me plante.
mais c'est ça. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir des auto-entrepreneurs, et c'est bien de créer son propre emploi, qui chaque matin vont regarder les catastrophes qui se sont déroulées dans la nuit, et qui le matin vont porter plainte. Cette société me fait peur.
Merci Bernard. Oui, vous voulez ajouter un mot ?
Cette question, bien sûr.
Bah écoutez, merci Bernard pour cette vraie question sur la judiciarisation au fond de tout au détriment de l'action politique. Qui veut répondre ? Oui, allez-y. Excusez-moi, voilà, j'ai des papiers partout. Allez-y, Fanny Gianceto.
Merci monsieur pour votre question. En fait, vraiment, c'est le principe de l'état de droit. Je vais encore insister là-dessus, mais quand il y a des faits comme ça, comme des cas de pollution aussi graves que ça, la justice, c'est la contrainte et c'est la seule façon d'indemniser les victimes. Les victimes, si elles veulent être indemnisées, et dans le cas du changement climatique, on parle de millions de victimes. La seule façon qu'on a aujourd'hui, c'est d'aller en justice et de demander l'indemnisation de ces préjudices. Et on parle pas, on dit pas, allez-y, tout le monde, saisissez les tribunaux, va y avoir des millions de tribunaux, on veut pas engorger les tribunaux. Non, on a des cas, pour l'affaire du siècle, des arguments solides, on a 2 millions de personnes derrière nous, on est 4 ONG, c'est une action, on parle pas non plus de centaines d'actions en France.
Cécile Duflot, vraie question.
Vraie question très intéressante. En fait, la justice, c'est aussi la démocratie. C'est-à-dire que quand la réponse politique n'est pas à la hauteur, c'est-à-dire que refaisons l'histoire. Il y a eu une mobilisation de la société civile, des scientifiques, une décision prise, l'accord de Paris, signé. 196 pays. Il n'y en a que 16 qui le tiennent, cet accord, au bout de 4 ans. Qu'est-ce qu'on fait face à ça ? On se désole ? On se lamente ? On passe à l'action directe, qu'est-ce qu'on fait ? On peut considérer que l'outil de droit, de l'état de droit qu'est la justice, est un bon outil. Mais ça n'est pas le seul. Et là, je veux rassurer Bernard. On sera très nombreux, et j'espère qu'il sera avec nous samedi, partout en France, à ce qu'on appelle la marche du siècle. Parce que oui, je pense qu'un grand mouvement de la société, un grand mouvement non violent, pacifique, mais massif, peut aussi peser sur les décisions politiques. Mais quand il s'agit d'utiliser tout ce qu'on peut utiliser parce que l'urgence est grande, ça fait partie de l'état de droit d'utiliser la justice.
Je voudrais vous livrer une dernière question qui vient par les réseaux sociaux. Domian, est-ce que le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, ne pourrait pas être l'outil idéal pour défendre le climat ? Là aussi, question très dense. Alain Grandjean, vous voulez y répondre ?
Je ne sais pas.
C'est déjà bien hein, de dire je ne sais pas, mais quelqu'un a peut-être une idée plus aboutie. Jean-François Julliard.
Bah c'est compliqué parce que
aussi c'est une vraie question.
Oui, c'est une vraie question bien sûr, mais la question du changement climatique est tellement importante, tellement difficile à appréhender que je ne vois pas comment on pourrait la réduire à une question dans un référendum. En revanche, qu'il y ait une participation citoyenne à des décisions qui vont nous impacter face au dérèglement climatique, oui, bien sûr, on le voit à travers les plus de 2 millions de personnes qui ont soutenu ce recours juridique. Ça montre qu'il y a une envie de participation citoyenne plus importante, ça montre qu'il y a une envie de la part de beaucoup aujourd'hui en France de participer à quelque chose, de se réapproprier un peu un pouvoir de participation à des décisions publiques.
On est déjà très en retard. Mot de conclusion, Fanny Gianceto, puis Cécile Duflot.
Oui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment en effet un mouvement citoyen dans ce sens. Et évidemment, c'est les jeunes, peut-être en premier, les lycéens qui font la grève maintenant tous les vendredis. C'est la marche de samedi. Et vraiment, on invite tout le monde à venir. Il y a vraiment... C'est deux jambes, quoi. Il y a la partie juridique, c'est vrai, mais il y a la partie mobilisation et c'est complémentaire.
Mmh. Cécile Duflot.
C'est aussi la confiance dans la politique qui est en cause. Parce que quand vous avez un président de la République qui dit, et on sera tous ici prêts à le saluer, Make Our Planet Great Again, qui s'engage, qui crée des sommets pour le climat, il faut qu'il passe aux actes. Et s'il y a un recours, c'est qu'il y a une loi qui est méconnue. C'est donc en fait qu'il y a des décisions qui ont été prises et qui ne sont pas tenues. Donc c'est pour ça que nous sommes nombreux, que on peut encore d'ailleurs signer sur le site l'affaire du siècle.net pour soutenir. Et si, ce qui est le plus important en fait, fait, de ce qui nous est arrivé ces dernières semaines, c'est cet engouement considérable. C'est-à-dire ces 2 millions de personnes en quelques jours qui ont signé pour soutenir ce recours. Donc je pense que cette volonté d'agir plus rapidement, elle est largement partagée par la société civile.
Merci à tous les quatre. Cécile Duflo, Fanny Gianceto, Alain Grandjean et Jean-François Julliard, merci d'être venus décrire le mécanisme de ce combat qui, en tout cas, formellement, est inédit en France. Merci encore. Très en retard, le carrefour du 7-9 à suivre.